Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce vendredi 26 mai 2023, le 5 Khordad 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Asadullah Assadi, diplomate iranien détenu en Belgique, est arrivé vendredi 26 mai dans l'après-midi à Téhéran. Le missile balistique Khorramshahr 4 témoigne de la puissance défensive du pays, annonce le ministère des Affaires étrangères. Et Sayed Hassan Nasrallah a prononcé un discours à l'occasion de l'anniversaire de la libération du sud Liban. C'était le principal titre de l'actualité. En voici les détails. Asadullah Assadi, diplomate iranien détenu en Belgique, est arrivé vendredi 26 mai à Téhéran. Il a été accueilli par le porte-parole du gouvernement, Ali Bahodori Jahromi, accompagné du secrétaire du Conseil des droits de l'homme et chef adjoint du pouvoir judiciaire de la République islamique pour les affaires internationales, Kazem Gharimabadi. Plus tôt dans la journée, vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le diplomate Assadi a été libéré après un accord négocié par Oman et était sur le chemin du retour dans son pays d'origine. Le ministre a fait cette remarque dans un message en persan sur sa page Twitter vendredi, après que le ministère des Affaires étrangères d'Oman a officiellement annoncé que Mascate avait négocié un accord entre l'Iran et la Belgique pour échanger leurs prisonniers. Monsieur Asadullah Assadi, diplomate innocent de notre pays, qui a été illégalement détenu en Allemagne et en Belgique pendant plus de 2 ans en violation du droit international, est maintenant sur le chemin du retour dans son pays natal et entrera bientôt dans notre bien-aimé Iran, avait déclaré Amir Abdollahian. Je remercie le sultanat d'Oman pour ses efforts positifs dans cette direction. Le cas de Assadi, selon les experts juridiques, était basé sur des accusations factices et non fondées et une propagande politique contre la République islamique. En juin 2018, les autorités belges ont déclaré que la police du pays avait intercepté une voiture transportant des explosifs artisanaux, affirmant que le diplomate iranien avait remis le matériel à 2 personnes en Belgique. Il a été accusé d'avoir comploté un attentat contre le groupe terroriste d'ailleurs anti-iranien Mujahedine Khalr, ou MKO en anglais, une allégation qui a été fermement rejetée par les autorités iraniennes. Un tribunal belge a ensuite condamné le diplomate, qui est le 3e conseiller à l'ambassade d'Iran à Vienne, à 20 ans de prison. Le missile balistique Khorramshahr 4 témoigne de la puissance défensive de l'Iran, selon le porte-parole de la diplomatie de la République islamique. Commémorant l'anniversaire de la libération de la ville de Khorramshahr, Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le missile balistique Khorramshahr est le symbole de fierté et de résistance pour les Iraniens. Le dévoilement du missile balistique de quatrième génération Khorramshahr, nommé Khaybar, produit par le ministère de la Défense de la République islamique, est coïncident avec l'anniversaire de la libération de Khorramshahr de l'occupation irakienne en 1982, est un autre symbole de la puissance défensive de la nation pour assurer côte à côte avec l'appareil diplomatique la sécurité et les intérêts nationaux d'un Iran puissant et indépendant, a déclaré Nasser Kanani dans un message sur Twitter jeudi. Cette déclaration fait suite au lancement réussi du test du missile Khaybar, dernière version de classe Khorramshahr, plus tôt dans la journée. Le missile balistique a été dévoilé en présence du ministre de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, lors d'un événement marquant le 41e anniversaire de la libération héroïque de la ville de Khorramshahr, dans le sud-ouest du pays, après son occupation de 3 ans par le régime bassiste irakien de l'époque. Rappelons aussi que le ministère français des Affaires étrangères a réagi jeudi à cet événement. Selon Reuters, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a prétendu que le test du nouveau missile balistique à longue portée de l'Iran violait la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, approuvée en 2015. Concernant les accusations répétées contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran et la déclarée Dixit, ces activités sont plus préoccupantes dans le contexte de l'escalade continue du programme nucléaire iranien. Il convient de rappeler que l'Iran a annoncé à plusieurs reprises que son programme de missiles n'a rien à voir avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU. Suite du journal. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours jeudi 25 mai à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sud-Liban. Celui qui pense que la bataille avec l'ennemi est terminée est dans l'illusion parce qu'une partie de notre territoire est encore sous occupation, a-t-il déclaré. Il a noté Dixit après s'être retiré du sud du Liban et de Gaza. Aujourd'hui, le Grand Israël allant du Nil jusqu'à l'Euphrate n'existe plus. Fin de citation. Se référant aux acquis obtenus par la résistance, le secrétaire général du Hezbollah a également déclaré « Israël se cache aujourd'hui derrière les murs et est incapable d'imposer ses conditions dans toute négociation avec la Palestine ». Et ceci est le résultat de changements imposés par la résistance. Depuis la libération du sud du Liban, l'hégémonie de l'Amérique sur le monde entier n'existe plus et la situation évolue vers un monde multipolaire et c'est bien ce qui effraie Israël. Il a souligné que, contrairement aux différends existants dans le régime sioniste, il y a une grande cohésion et une bonne stabilité au sein de l'axe de la résistance. La position du président iranien lors de son voyage en Syrie après 12 ans de guerre montre l'unité de l'axe de la résistance, a-t-il souligné. En réaction aux menaces brandies par Netanyahou, Sayed Hassan Nasrallah a répondu Dixit, vous ne pouvez pas nous menacer d'une grande guerre. C'est plutôt nous qui vous menaçons d'une telle chose. Les champs de bataille de cette grande guerre seront remplis de centaines de milliers de combattants, car nous avons une supériorité sans précédent en termes de nombre de forces, la résistance se renforçant de jour en jour et une grande transformation s'est d'ailleurs produite sur le plan financier et militaire au sein de l'axe de la résistance. Dans la page de l'actualité palestinienne, depuis le début de 2023, l'armée du régime d'occupation a détruit 376 bâtiments palestiniens, y compris des maisons et des propriétés des Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la ville de Gotz, vient d'annoncer le site web Al-Watan, le chef de la commission de la résistance aux murs et aux colonies. Mouayad Chaban a déclaré dans un communiqué que l'armée d'occupation sioniste a émis environ 500 avis de démolition des maisons palestiniennes en Cisjordanie dans le cadre de la politique d'annexion progressive. Et pour fermer le journal, la Russie a accusé les États-Unis de chercher à utiliser des terroristes en Afghanistan pour déstabiliser toute la région de l'Asie centrale. L'Afghanistan reste un foyer d'instabilité, c'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, dont les propos ont été diffusés par l'agence de presse russe Itartas. La principale menace émane des groupes armés terroristes qui ont considérablement renforcé leur position dans ce pays après l'arrivée au pouvoir des talibans, a-t-il ajouté, lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, OTSC, une alliance militaire intergouvernementale d'États eurasiens tenue à Minsk, capitale biélorusse. Nous pensons que les États-Unis ont l'intention d'utiliser le potentiel de ces groupes terroristes pour déstabiliser la situation dans la région, a précisé le responsable russe. À cet effet, le redéploiement des terroristes du Moyen-Orient vers l'Afghanistan a été organisé, a-t-il aussi averti. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le refus par l'Afghanistan des droits de l'Iran sur l'eau détruit l'agriculture et les zones humides, avis d'experts. Alors que le différend de longue date sur l'eau entre l'Iran et l'Afghanistan s'éternise, les experts avertissent qu'il pèse lourdement sur l'agriculture et les masses d'eau, en particulier dans les zones humides du sud-ouest de l'Iran. La question du non-respect par l'Afghanistan du traité de partage de l'eau de 1973 et du refus des droits de l'Iran sur l'eau en vertu du pacte est revenu sur le devant de la scène. De hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi et le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, ont vigoureusement averti dans des communiqués séparés le gouvernement taliban de facto à Kaboul de régler l'affaire qui a longtemps été une pomme de discorde entre les deux voisins. Le différend a souvent alimenté les tensions politiques et diplomatiques entre Téhéran et Kaboul, principalement en raison de l'impact désastreux qu'il a sur les masses d'eau et l'agriculture en Iran. Des experts en environnement ont déclaré au site web anglophone iranien Presse TV que la violation des droits de l'Iran sur l'eau de la rivière Hirmand, également connue sous le nom de rivière Helmand, avait touché l'agriculture et rendu la région frontalière stérile. Les deux pays voisins sont depuis très longtemps aux prises avec le problème des faibles précipitations. Le différend sur les ressources en eau partagée n'a fait qu'aggraver la situation, notamment en Iran. Behnam indique qu'il a fait un doctorat en ressources en eau et en génie de l'environnement à l'Université de Téhéran, a déclaré au site web Presse TV que l'impact funeste de la pénurie d'eau ne connaît pas de frontières politiques. La pénurie de l'eau a affecté à la fois la région du Sistan en Iran et la province de Nimruz en Afghanistan et par conséquent les zones humides internationales de Hamoun disparaissent et l'agriculture est presque morte, a-t-il fait remarquer, brossant un tableau précis de la situation actuelle. La rivière Hirmand, qui émerge dans les montagnes de l'Hindoukouch en Afghanistan près de la capitale afghane Kaboul, alimente le Hamoun et les zones humides transfrontalières aux frontières irano-afghanes. Le Hamoun est composé de trois lacs, Hamoun et Helmand, situés entièrement en Iran, Hamoun et Sabari à la frontière et Hamoun et Pouzak, presque entièrement à l'intérieur de l'Afghanistan. Le conflit sur les droits d'accès à l'eau de la rivière Hirmand remonte à la fin des années 1800. Comme l'Afghanistan n'a pas ratifié un traité de 1939 sur le partage de l'eau, les deux pays se sont retrouvés mêlés à une dispute amère qui s'est poursuivie pendant un autre siècle. En 1973, les deux parties ont finalement convenu d'un débit d'eau de 26 mètres cubes par seconde vers l'Iran, ce qui équivaut à 820 millions de mètres cubes d'eau par an. Le traité a été ratifié par les deux pays en 1972, mais n'a pas été pleinement mis en œuvre en raison de l'évolution politique dans les deux pays, notamment le coup d'État politique de 1973 en Afghanistan. Cependant, un accord bilatéral a été signé par les deux parties en 2003 pour mettre en œuvre le traité. L'Afghanistan, cependant, a de nouveau échoué à honorer le traité et a refusé à l'Iran ses droits sur l'eau. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique iranienne mardi, l'envoyé spécial du président iranien pour les affaires afghanes, Hassan Kazemiromi, a déclaré que le traité était une affaire juridique à laquelle le gouvernement afghan est attaché et doit donc montrer son adhésion dans la lettre et l'esprit. Il a précisé que seulement 27 millions de mètres cubes d'eau ont atteint l'Iran l'année dernière, au lieu des 820 millions de mètres cubes que le pays devrait recevoir en vertu de l'accord de 1973.
Bonjour à tous, bienvenue dans la capitale iranienne, Téhéran. Notre programme étant le débat, nous allons commencer, comme le veut la tradition, donc par un reportage qui fera le point, le sujet du jour. Donc l'Iran et la Russie, leurs rapports et leurs axes ferroviaires, pratiquement voulant être mis en route, les budgets entre l'Iran et la Russie, les échanges également économiques qui se font en rial et en rouble, c'est le sujet du jour. Je vous propose donc tout d'abord le reportage, par la suite la venue de nos invités. Aujourd'hui, nos invités sont Morgan Lotz, iranologue, et Xavier Dupré, l'économiste. Tout de suite donc, je vous propose le reportage.
L'Iran et la Russie, les deux alliés de tous les instants, ont franchi cette semaine un pas de géant pour approfondir leurs relations et contourner les sanctions draconiennes en signant un accord ferroviaire ambitieux. Les deux parties ont signé mercredi 17 mai un accord pour achever le dernier tronçon du corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), un réseau de routes maritimes, ferroviaires et routières s'étendant sur plus de 7000 km reliant l'Europe du Nord à l'Asie du Sud. Dans le cadre de l'accord gagnant-gagnant, la Russie allouera 1,3 milliard d'euros de prêts interétatiques pour aider à financer la construction d'un chemin de fer de 162 km entre la ville de Rasht, dans le nord de l'Iran, et Astara, à côté de la frontière du pays avec l'Azerbaïdjan. Les travaux sur le projet devraient se terminer d'ici 2027. La Russie fonde de grands espoirs sur ce projet. Le vice-premier ministre Alexandre Novak le présentant comme un changement global des chaînes d'approvisionnement qui, selon lui, pourrait devenir une alternative au canal de Suez. Le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont tous deux assisté à la cérémonie de signature virtuellement via une liaison vidéo et ont salué l'amitié grandissante entre les deux pays. Raisi a décrit le projet comme une étape stratégique importante vers une coopération plus étroite entre l'Iran et la Russie qui, a-t-il souligné, profitera à toutes les nations impliquées dans l'INSTC. La République islamique d'Iran a un grand potentiel malgré les efforts du collectif occidental pour contourner les territoires iraniens et utiliser d'autres voies de transit, a-t-il déclaré. La route à travers l'Iran est la route la moins chère, la plus économique et la plus proche pour le trafic commercial et de transit dans la région. Poutine, pour sa part, a déclaré que le projet est une entreprise majeure pour la région, l'infrastructure de transport mondial et que le corridor contribuera à diversifier le trafic mondial en plus d'autres avantages économiques sous forme d'emploi et d'investissement. Le trafic via le nouveau corridor possédera des avantages compétitifs substantiels. Par exemple, il faudra environ 10 jours pour livrer des envois de Saint-Pétersbourg à Mumbai. Je tiens à souligner, à titre de comparaison, qu'il faut 30 à 45 jours pour les livrer par les voies commerciales traditionnelles. En effet, cela permet de réduire considérablement les délais et les coûts de livraison, a-t-il déclaré. Le président russe a en outre déclaré que le projet contribuait à la sécurité alimentaire mondiale car il facilitait la livraison de nourriture et d'autres produits agricoles en Asie de l'Ouest ainsi qu'en Afrique.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc d'abord la venue donc de nos invités. Mais, alors j'invite à monsieur Xavier Dupré. Bonjour monsieur Dupré.
Merci, c'est un plaisir pour moi également.
Alors, je ne pense pas que notre deuxième invité est encore arrivé. Monsieur Xavier Dupré, la situation économique de l'Iran se veut meilleure dans l'avenir, notamment du fait que le côté isolé du pays iranien à cause des sanctions va prendre fin d'ici quelques années si de tels accords comme l'accord ferroviaire se met en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision optimiste de la situation en Eurasie ?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, des choses sont en train de bouger dans cette zone. La guerre en Ukraine aujourd'hui a mis l'Europe occidentale devant, une fois de plus, sa dépendance coupable à l'égard de Washington. Et donc, nous nous sommes coupés de la Russie. Ce faisant, cette dernière cherche, et c'est tout naturel et très légitime finalement, à diversifier ses voies d'ouverture sur l'économie mondiale. Évidemment, ça ne passera plus par une connexion avec l'Europe occidentale, mais avec des pays qui se situent en Asie, donc principalement il y a au sud l'Iran et puis il y a la Chine. Ces deux pays, tant Pékin que Téhéran, deviendront les deux grands partenaires à l'avenir de la Russie parce que le conflit en Ukraine n'est hélas pas prêt de se terminer. Donc je dis ça pour les populations civiles. Donc oui, effectivement, dans ces conditions, on va assister à une accélération de la mise en place d'un ordre du monde multipolaire. Et donc, toute la centralisation du commerce international autour du canal de Suez, parce que c'est de ça dont il est question, le canal de Suez qui est une création coloniale occidentale en Égypte, je veux dire, faut jamais, enfin, voilà, ce sont ses origines historiques, eh bien, ce canal de Suez va être quelque part un peu mis sur la touche pour d'autres types de liaisons qui ne seront plus basées sur la mer, mais qui seront beaucoup plus telluriques, qui seront liées à la terre, qui seront liées à des systèmes, à l'interconnexion de systèmes ferroviaires. Et donc, oui, là, à ce moment-là, l'Iran est forcément désenclavé, puisqu'il va se situer très exactement au milieu des nouvelles routes commerciales entre la Russie et la Chine, d'autre part, et la Russie et la Chine, d'une part, et l'Inde, d'autre part. Donc, forcément, ça ne peut que contribuer à désenclaver le pays. D'autre part, je voulais simplement faire observer que cet accord, enfin, ce rapprochement entre l'Iran et la Russie intervient au moment où le FMI, donc pas une officine tiers-mondiste, pas un organe subversif, le FMI met en garde Washington contre le danger que représente pour l'utilisation sur les marchés financiers et commerciaux du dollar de la politique de sanctions des États-Unis, qui est une politique complètement unilatérale et systématique depuis la fin des années 1980. Ce qui signifie aussi qu'ici, nous sommes confrontés à une double émancipation, si je puis dire, une émancipation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ordre technique, commercial, ferroviaire, etc., mais aussi un désenclavement monétaire, puisque en contournant le dollar, l'Iran et la Russie mettent en avant un commerce qui sera basé sur l'échange bilatéral de leurs devises respectives, de leurs devises nationales respectives, ce qui permet d'éviter cette fois-ci tout risque de sanctions puisque de la part des États-Unis, puisque le dollar n'est plus du tout impliqué dans les échanges commerciaux, ne sera plus impliqué dans les échanges commerciaux entre Téhéran, entre votre pays et la Russie.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, parce que je profite de ce que vous dites. Il y a également aussi, vous parliez donc de la dédollarisation, mais il y a également un manque de confiance au niveau des banques. Les sanctions américaines ont provoqué la crainte des banques, également un échange plutôt de matériel plutôt qu'un échange bancaire aussi. Il y a eu cette création et donc cet échange de frais, cet accord ferroviaire va permettre également le fait de moins passer par des banques internationales et passer par des banques plutôt nationales, ou voire même tout simplement un simple échange de marchandises, un simple échange de frais. C'est peut-être aussi ça qui fait peur au FMI, du fait que ça mette en danger la sécurité même des banques et peut-être même la raison même des banques.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui pose problème, surtout aux banques occidentales en ce moment, qui sont, comme vous l'avez souligné, les grandes banques américaines et européennes, sont des multinationales de la finance. Je pense que ce qui leur pose surtout problème aujourd'hui, c'est la remontée des taux qui est tout à fait spectaculaire aux États-Unis. On n'avait plus vu ça depuis 1987, donc ça fait près de 40 ans. Donc forcément, un certain nombre de petits établissements sont en péril, mais ces petits établissements, la crise se concentre surtout sur ces petits établissements, spécialement les banques régionales aux États-Unis. Mais le rachat de ces actifs bancaires par de plus grandes banques va les rendre plus fortes encore. Je pense que ce qui fait fondamentalement peur au FMI aujourd'hui, c'est que dans une partie du monde qui est en forte croissance économique, avec une vraie production industrielle, l'Occident est aujourd'hui très désindustrialisé, et bien dans cette partie du monde où on crée de la valeur, où on l'échange, on ne passe plus par le dollar, ce qui fait perdre évidemment de son rôle central au billet vert. Simplement pour vous donner un exemple, lorsque aujourd'hui, mais on va tout quitter l'Asie parce que c'est un mouvement de dédollarisation qui est quand même très global. Un pays comme l'Argentine, qui est un grand pays producteur de matières premières alimentaires, décide d'axer tout son commerce avec Pékin en yuan. Il sera basé exclusivement en yuan, il est très très clair pour les États-Unis qu'à ce moment-là, une partie de ce qui était autrefois tout à fait lié au dollar, tout à fait à la bourse de Chicago en ce qui concerne les matières premières alimentaires, va être complètement découplée des centres de décision des États-Unis, puisque tout se fera à destination de la Chine avec la devise de la Chine. C'est une vraie perte de pouvoir qui va bien au-delà du fait de savoir si on échange avec telle ou telle banque. C'est vraiment lié en fait aujourd'hui au fait que les Occidentaux n'ont quasiment plus que la finance comme moyen d'accumulation de capital.
Il y a aussi un autre point qui est intéressant avec cet accord ferroviaire, c'est également les vérifications. Parce que si au niveau des frais maritimes et au niveau de l'aviation, on doit vérifier les marchandises, pour les trains, ça se fait de manière beaucoup plus difficile. Il n'y a pas exactement de passeport, d'ID pour vérifier ce qu'il y a dans les marchandises et les suivre comme il se fait actuellement par radar. Donc c'est aussi un avantage stratégique pour les pays qui veulent se lancer dans cette création de voies ferroviaires. On parle aujourd'hui de l'accord entre l'Iran et la Russie, mais n'est pas loin également le projet de la route de la soie. Tout ça est un avantage direct pour l'Iran parce qu'il se trouve dans une zone stratégique extrêmement importante pour donner l'accès, que ce soit à l'Eurasie, mais que ce soit également à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas également cet avantage stratégique, et c'est pour ça que la Chine et la Russie, deux pays dominants, se mettent en place ces voies ferroviaires aussi rapidement, parce qu'on parle d'un projet qui devrait commencer à être en accès en 2027, donc c'est assez rapide quand même.
Oui, c'est très clair, mais ça c'est évident, c'est-à-dire qu'en fait le fret international aérien est complètement lié à des agences internationales dans lesquelles les États-Unis, qui ont été mises en place durant les années de guerre froide et donc qui ont été mises en place sous l'égide des États-Unis et sous leur direction. Donc effectivement, le commerce maritime est structuré par les Anglo-Saxons depuis le milieu du 19e siècle. C'est l'Angleterre puis les États-Unis. Donc oui, le train représente un domaine dans lequel une voie d'échanges dans laquelle les États-Unis et les Occidentaux, par ricochet, ont finalement moins de prise. Donc oui, ça représente une voie d'émancipation en termes de structure ferroviaire. Mais fondamentalement, si vous regardez ce qui se passe du côté du FMI aujourd'hui, leur crainte, elle est d'abord monétaire. Elle est d'abord liée au fait que si les États-Unis ne peuvent plus endetter toute la planète quelque part, faire payer leurs dettes à toute la planète par le rôle central du dollar, eh bien tout simplement, l'économie occidentale est menacé de graves problèmes, de graves séquences d'effondrement qui vont très, très au-delà de ce dont on parle aujourd'hui. Vraiment, le rôle central du dollar, c'est une donnée structurelle de l'économie mondiale depuis 1945. Donc, ce serait vraiment, si vous voulez, ce serait un changement complet de, j'ai presque envie de dire, de continuum historique en matière de relations économiques internationales. Ce serait l'équivalent d'une révolution. Ce serait une véritable révolution. On est très, très au-delà de ce dont on parle ici, en fait.
Alors, l'Iran se félicite de ce genre d'accord. L'un des points principaux pour le gouvernement iranien, c'est de pouvoir revaloriser l'intérêt iranien, c'est-à-dire pour les autres pays. Ces projets internationaux vont également évoluer grâce à ça. Est-ce qu'on peut comprendre donc, le point de vue iranien comme quoi ça va donner un aspect au pays beaucoup plus important que ce soit dans le domaine régional, mais aussi international?
C'est très clair. Cela, si vous voulez, tout le plan qu'ont eu les États-Unis à l'égard de l'Iran depuis la révolution islamique de 1979, ça a été d'isoler ce pays, de le sanctionner, de le pointer du doigt et quelque part de tenter, sans trop de succès d'ailleurs, de le mettre au banc des nations, y compris d'ailleurs en 1980, en pilotant Saddam Hussein qui a déclaré unilatéralement la guerre à l'Iran. Évidemment que si demain, la Chine, cette grande puissance montante, la Russie, qui restera, qu'on le veuille ou non, un grand centre de production de matières premières dans les années qui viennent, si ces deux grandes puissances finissent par structurer une partie de leur commerce régional, mais asiatique, l'Asie est une grande région d'ailleurs, en termes de croissance pour les années qui viennent, si la restructuration de leur chaîne de valeur, de leurs liens commerciaux privilégient des voies ferroviaires avec l'Iran, évidemment que la puissance de l'Iran va en sortir terriblement renforcée. Et on peut même dire de ce point de vue-là que ce sera l'échec peut-être définitif, et on voit bien que ça commence à être un échec définitif pour les stratégies, les politiques d'isolement qu'avaient développées les États-Unis. J'en veux simplement pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand l'Arabie saoudite décide de facturer une partie de son commerce de pétrole avec la Chine en yuan, ce qui s'ensuit immédiatement, c'est une amélioration de ses relations avec Téhéran. Cela prouve qu'aujourd'hui, dans cette région du monde, le prochain Moyen-Orient, la Chine joue un rôle de plus en plus important, la Russie sera aussi de plus en plus importante, et quelque part, les Occidentaux et les États-Unis évidemment, seront quelque part un peu mis sur la touche, ou en tout cas, leur puissance ne sera plus aussi unilatérale et déterminante qu'elle ne l'a été dans le passé. Ça, c'est très clair. Et ces travaux, et cet aménagement d'une voie ferroviaire commerciale très conséquente entre la Russie et l'Iran participent de cette réaffirmation de la puissance iranienne et témoignent aussi de l'échec de la stratégie de marginalisation à l'encontre de l'Iran, qui est poursuivi par les États-Unis depuis 1979. C'est très, très net.
Alors, plusieurs fois, l'Iran a indiqué qu'ils veulent se mettre en accord avec l'Inde, faire des coopérations. Les BRICS et les autres organisations créées en Asie également ont laissé plus de place à l'Iran. Et derrière, on voit Moscou pousser l'Inde vers l'Iran. On sait que Bandar Abbas, le port Bandar Abbas, va avoir un port exclusivement pour les commerces avec l'Inde. Et cette voie ferroviaire également va jusqu'à Mumbai. Est-ce que ça permet en fait à l'Iran également d'accéder à des pays qui étaient fermés à cause des sanctions et qui va permettre, bien entendu, donc un meilleur échange, même avec les pays qui n'avaient pas forcément des coopérations économiques avec l'Iran depuis?
Je crois que, oui, c'est tout à fait, parce qu'en fait, si vous voulez, ce à quoi on assiste depuis, je dirais, 10-15 ans, c'est la réaffirmation de la souveraineté de grandes nations, de grands pays, comme la Chine, la Russie, l'Inde et l'Iran. Il est très très clair que l'Inde actuelle, l'Inde contemporaine, n'est plus aussi alignée qu'elle ne le fut sur les desiderata des États-Unis quant à l'évolution des relations entre nations asiatiques. Ça, c'est vrai. L'Inde est devenue aujourd'hui un pays profondément souverainiste et qui est jaloux de son indépendance. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'à l'intérieur des BRICS, des rapprochements soient à signaler entre la Russie et l'Inde d'autre part. De surcroît, ce sont des pays qui ont des relations entre eux depuis déjà fort longtemps. Hein, déjà du temps de l'URSS, il y avait quand même une proximité de Moscou avec New Delhi. Donc ce rapprochement, il est là, il s'inscrit dans cette dynamique-là, et forcément, dans ces conditions, on peut forcément imaginer que ces lignes ferroviaires d'échange commercial non seulement iront jusqu'au Mumbai, mais permettront un développement des relations commerciales entre l'Iran et l'Inde, de manière d'ailleurs à ce que la production pétrolière et gazière iranienne, qui est l'avenir de ce pays, puisse s'écouler, trouver un client final important en Inde. Vous savez, aujourd'hui, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, les médias dominants, les courants de l'idéologie hégémonique ne pointent plus exclusivement les vilains communistes chinois ou les vilains iraniens chiites. Aujourd'hui, on pointe du doigt toute une série de pays qui sont même parfois membres de l'OTAN, qui sont historiquement proches de certains grands centres de décision occidentaux. On pointe du doigt M. Erdogan en Turquie, on pointe du doigt M. Modi en Inde. En fait, on pointe du doigt tous les gouvernements du Sud global qui disposent aujourd'hui de la capacité à affirmer leur souveraineté nationale. Donc, nous sommes quelque part aujourd'hui, nous autres occidentaux, mis devant le fait accompli. Donc, je crois que ça va continuer de la sorte et il y aura effectivement une affirmation plus grande de sa souveraineté par l'Inde, ce qui passera par le fait de ne pas vouloir appliquer des sanctions unilatérales et aveugles telles que décidées à Washington dans le commerce de New Delhi avec Téhéran. Ça me semble très net. C'est le mouvement actuel de l'histoire.
Merci, M. Després. J'ai encore une dernière question. Ce sera certainement la dernière question de notre débat. C'est concernant donc les banques. On sait que l'Iran et la deuxième banque de Russie vont essayer de trouver un langage électronique pour pouvoir faire un deuxième système SWIFT. Est-ce que vous pensez que d'autres pays, une fois que ce système serait mis en place, il est annoncé pour être effectif d'ici 2023-2024, au pire, est-ce que vous pensez que d'autres pays, dans ce cas-là, pourraient vouloir se lancer et se rajouter à ce système que les Russes et les Iraniens sont en train de construire?
C'est-à-dire qu'en fait, les plateformes d'échange électronique alternatives à SWIFT, vous savez, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, il y a cette banalisation des technologies occidentales. Lorsqu'on lance SWIFT dans les années 70 hein, du siècle dernier, effectivement, à ce moment-là, l'Europe occidentale, les États-Unis, en matière de système de codage électronique, disposent d'un monopole mondial, donc tout le monde dépend de SWIFT. Aujourd'hui, il y a eu un développement de la connaissance, de l'ingénierie, de l'électronique dans le sud global qui permet à des systèmes tout à fait alternatifs de fonctionner complètement. Si aujourd'hui, par exemple, le yuan est devenu la première monnaie, la première devise d'échange entre la Russie et la Chine, c'est tout simplement parce que les deux systèmes, le système russe et le système SIPS en Chine, ont tout simplement pu s'interconnecter et sont tout à fait fonctionnels dans leurs échanges bilatéraux sans appliquer le dollar, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de sanction, aucune possibilité légale de sanction. Donc dans ces conditions, on pourrait très très bien imaginer demain qu'un tel système puisse, une telle interconnexion de systèmes nationaux alternatifs puisse voir le jour entre la Russie et l'Iran d'autre part, ou alors entre la Russie, la Chine d'une part et l'Iran d'autre part, et puis d'autres pays pourraient commencer à vouloir commercer dans leur devise via ce système. À terme, ce que je pense, c'est que tous ces systèmes alternatifs au système SWIFT, vous savez, il existait des systèmes électroniques de paiement déjà en Europe avant le système SWIFT. On s'est simplement tous ici, petits pays occidentaux, par rapport aux États-Unis, alignés sur leur système. Je pense qu'à terme, il y aura deux systèmes qui vont dominer, qui vont rester dominants dans le monde. Le SWIFT d'un côté, lié aux États-Unis et à la finance anglo-saxonne, et d'un autre côté, tous ces systèmes qui sont en train de se développer, ces systèmes alternatifs, vont finir par s'agréger, s'organiser pour se regrouper dans des modalités qui restent à définir autour du système SIPS en Chine. Mais donc, on assiste effectivement, là aussi, à une forme d'émancipation du côté de l'électronique et des systèmes d'échange électronique entre banques, ce qui est tout simplement lié aussi au fait que les connaissances scientifiques en matière d'électronique et de codage des systèmes informatiques bancaires, eh bien, tout simplement, ces connaissances-là se sont diffusées très largement dans le monde depuis une trentaine d'années.
Merci, Monsieur Dupré. Donc, je rappelle, Monsieur Dupré, économiste basé à Bruxelles. Je vous remercie de votre participation. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre notre deuxième invité, Monsieur Morgan Loss, qui était notre expert iranologue du jour. C'est dommage, ça sera pour une prochaine fois, très certainement. En tout cas, vous, oui, téléspectateurs, je vous remercie. Je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre débat, si vous l'avez manqué, sur notre site ou alors nos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à laisser un commentaire ou poser vos questions sur notre plateforme. Moi, je vous dis au revoir, à une prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur la récente visite du président iranien Seyed Ibrahim Raisi en Indonésie. L'Iran et l'Indonésie sont contre l'unilatéralisme et soutiennent une paix et une sécurité durable dans la région. Le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ibrahim Raisi, a fait ses remarques lors d'un point de presse à l'aéroport Mehrabad de Téhéran lundi 22 mai, avant de quitter la capitale iranienne pour Jakarta, à la tête d'une délégation de haut rang pour une visite officielle à l'invitation de son homologue indonésien Joko Widodo. L'Indonésie est un pays important en Asie du Sud-Est et occupe une position importante dans les développements régionaux et internationaux, a déclaré le président Raisi aux journalistes. En tant que pays musulman le plus peuplé, l'Indonésie entretient des relations profondes et de longue date avec la République islamique d'Iran, a-t-il déclaré, ajoutant « Outre les relations diplomatiques entre les deux pays depuis 70 ans, des liens culturels et historiques profonds ont également été établis entre les deux nations. » Évoquant l'importance des relations économiques et commerciales entre les deux pays, le président iranien a souligné la nécessité de les promouvoir de plus en plus. Le président Raisi a également fait part de la signature imminente de protocoles d'accord dans les domaines économiques, commerciaux, douaniers, de transit, culturels et sanitaires lors de sa visite de deux jours dans ce pays d'Asie du Sud-Est. L'Iran et l'Indonésie ont des points de vue communs sur les questions régionales et internationales. Les deux pays sont contre l'unilatéralisme et en faveur d'une paix et d'une sécurité durable dans la région. Et ces points de vue communs rapprochent les deux pays, a noté le président de la République islamique d'Iran. Soulignant la politique de promotion des relations de voisinage de la République islamique d'Iran, le président Raisi a exprimé l'espoir que sa visite serait un tournant dans le développement des relations entre Téhéran et Jakarta. Dans le cadre du renforcement des liens entre Téhéran et Jakarta, le président iranien Seyed Ibrahim Raisi est arrivé ce mardi 23 mai 2023 à Jakarta, la capitale indonésienne, pour une visite officielle de deux jours visant à renforcer les relations de la République islamique d'Iran avec les pays asiatiques dans les domaines politiques et économiques. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ibrahim Raisi, a été officiellement accueilli par son homologue indonésien Joko Widodo peu après son arrivée mardi 23 mai 2023. Le président Raisi et son homologue indonésien Joko Widodo ont eu des entretiens, tandis que des délégations de haut niveau des deux pays ont mené des négociations. 11 documents et accords ont été signés entre les deux parties. La visite d'État du président iranien à Jakarta marque un tournant dans les relations bilatérales qui ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays. En vertu des accords signés, Téhéran et Jakarta amélioreraient la coopération dans divers domaines, y compris le commerce préférentiel, l'annulation des visas, les échanges culturels, la supervision des produits pharmaceutiques, la science et la technologie, ainsi que le pétrole et le gaz. Les accords ont été signés par les ministres iraniens des Affaires étrangères, des technologies de l'information et des communications, du pétrole, le vice-président des Affaires scientifiques et technologiques et le vice-ministre de l'Industrie, des Mines et du Commerce avec leurs homologues indonésiens. Les accords ont été signés en présence des présidents iraniens et indonésiens. Les négociations entre les deux pays englobent un large éventail de sujets bilatéraux, régionaux et internationaux et visent à approfondir la coopération dans divers domaines, notamment les domaines politiques, économiques, commerciaux, énergétiques, scientifiques et technologiques, culturels, parlementaires et de sécurité. L'Iran et l'Indonésie entretiennent des relations tendues avec les États-Unis et cherchent à renforcer les liens politiques et économiques dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales accrues. Selon le ministère indonésien du Commerce, le voyage du président Raisi dans le pays à majorité musulmane devrait améliorer les relations mutuelles alors que Téhéran cherche des alternatives à la domination occidentale des affaires internationales dirigée par les États-Unis et une coopération accrue après que les deux États ont conclu les négociations sur le commerce préférentiel. Les données du ministère ont montré que le commerce entre l'Indonésie et l'Iran s'élevait à 54,1 millions de dollars entre janvier et mars, tandis que la valeur du commerce bilatéral a augmenté l'année dernière de plus de 23% pour atteindre 257,2 millions de dollars. Se référant à l'Iran en tant que partenaire commercial non traditionnel de l'Indonésie, Johnny Marta, directeur des négociations bilatérales au ministère indonésien du Commerce, a déclaré qu'avec les récents accords conclus, nous espérons élargir notre portée commerciale et nos opportunités d'exportation au Moyen-Orient et à l'Iran. Il convient de mentionner qu'au début de la cérémonie d'accueil organisée à l'occasion de la visite du président iranien Seyed Ibrahim Raisi à Jakarta, les deux présidents ont planté des arbres en signe de paix et d'amitié entre les deux pays musulmans. Lors de sa visite à Jakarta, le président iranien a également visité le centre islamique de la capitale indonésienne. Le président iranien Seyed Ibrahim Raisi a appelé lors de cette visite à une plus grande unité parmi les pays musulmans, affirmant que l'ère de la domination et de l'hégémonie des États-Unis a pris fin avec la montée des puissances émergentes.